De son premier succès, Indiana 1832, à son dernier roman, George Sand dévoile les injustices dont souffrent les femmes, la manière dont les institutions sociales les oppriment. Et Gabriel, autre roman des années 1830, ne fait pas figure d'exception. Le jeune héros éponyme de Gabriel reconnaît, et je cite, « la grâce et l'honneur d'appartenir à la race mâle ». Sans doute, je pouvais naître femme, réfléchit-il, et alors, adieu la fortune et l'amour de mes parents. J'eusse été une créature maudite. Mais attendez, Gabriel est né femme. Le héros de Sand est né femelle, mais a été élevé comme garçon pour conserver l'héritage familial. Comme se le demandait Carrie Pachter en 2007, et c'est la première citation, j'ai quelques citations assez longues sur votre fiche, c'est la traduction. À partir du moment où le sexe du bébé est nommé, quels sont les processus par lesquels les filles et les garçons comprennent ces aspects de leur identité, les construisent, les revendiquent et les projettent leur construction aux autres? Bon. Dans Gabriel, George Sand pose cette même question presque 150 ans plus tôt. Le précepteur employé par le prince pour réaliser l'éducation virile de Gabriel crée un monde tel que les héros doivent le percevoir. Il explique sa méthode au prince, c'est la deuxième citation. Gabriel était pénétré de la grandeur du rôle masculin et de l'abjection du rôle féminin dans la nature et dans la société. Les premiers tableaux qui ont frappé ses regards, les premiers traits de l'histoire qui ont éveillé ses idées, lui ont montré la faiblesse et l'asservissement d'un sexe, la liberté et la puissance de l'autre. Vous pouvez voir sur ces panneaux et les fresques que j'ai fait exécuter par vos ordres. Partout, les femmes esclaves, propriétés, conquêtes. En décrivant comment Gabriel est entouré de ses tableaux, le précepteur met à nu comment la virilité s'établit comme mythe universel, où l'homme se démarque de la femme. Olivier Gazelet parle justement, je vais vous citer, des générations de faiseurs de mythes qui fabriquent une cosmologie, une théologie, une politique, une morale, une biologie des sexes, propre à faire de l'homme le centre du monde et à normaliser et même sacraliser la servilité de la femme. C'est un processus qui s'effectue normalement au niveau de l'inconscient, ou au moins dans l'ombre, mais pas dans Gabriel, où ce processus est démystifié et explicite. Le féminisme de Sand est au cœur de beaucoup de travail critique sur l'écrivaine. Sand met en scène fréquemment la tragédie des rôles que doivent jouer ses héroïnes, et dans une préfiguration de l'argument que l'on ne naît pas femme, on le devient, Sand révèle que ces rôles dits féminins ne sont pas biologiquement déterminés. Gabriel, dans lequel la construction et la performance du sexe constituent le nœud principal de l'intrigue, est exceptionnel. Sand nous montre non seulement comment on devient femme, mais aussi comment on n'est pas homme non plus. En effet, on le devient, ou bien on essaie de le devenir. « La barbe ne fait pas l'homme », affirme Gabriel. Qu'est-ce qui alors fait l'homme? Ici, l'éducation. Gabriel est élevé dans un château isolé par un précepteur qui assure au prince que, je cite, « ses études ont été fortes et vraiment viriles ». En apprenant le latin, le grec et l'histoire, la philosophie et les lettres, Gabriel apprend la virilité intellectuelle. En apprenant à chasser, à faire la guerre et du cheval, il apprend la virilité physique. Avant tout, en apprenant l'importance du courage et de la liberté, il apprend la virilité morale. Bon, regardons de plus près en quoi ces leçons soient viriles. L'accès même au savoir, grec, latin, philosophie, est un marqueur de la virilité puisqu'une telle éducation est longtemps demeurée la chasse gardée des hommes. Mais l'éducation de Gabriel est aussi physique. La première fois où le prince voit son petit-fils, celui chevauche un cheval. Je cite, « Si le reste de l'éducation a aussi bien réussi, dit le prince au précepteur, je vous en fais mon compliment. » L'habileté physique, ici illustrée par les talons en équitation, est la première preuve visible de la virilité. Maîtriser le cheval est en plus un rite initiatique puissant pour l'homme, qui, à cheval, atteint la liberté. D'ailleurs, comme l'explique Olivier Gazelet, je cite, « la puissance sexuelle peut s'exprimer par la métonymie du cheval. » Très tôt, le mâle se distingue par le prestige qui s'attache à sa monture. En effet, plus tard dans Gabriel, la coquette Faustina reconnaît la virilité du héros, Gabriel, en dépit d'un déguisement féminin qu'il porte comme jeu, je vais expliquer plus tard. Elle dit, « Je vous reconnais, s'exclame-t-elle. Je vous ai vu passer à cheval l'autre jour et vous montez à cheval mieux qu'Astolphe, mieux qu'Antonio lui-même, qui pourtant ne m'avait plus que rien que pour cela. » Ici, la séduction de la femme va de pair avec la maîtrise du cheval. Et par conséquent, Gabriel, qui est doté d'une virilité qu'aurait pu démentir ses traits délicats et son déguisement féminin. Le précepteur assure au prince que le jeune étudiant, et c'est citation numéro 3, aime l'étude. Et il aime aussi les violents exercices, la chasse, les armes, la course. En lui, le courage supplée à la force physique. Bon, il ne suffit pas de développer l'esprit et le corps pour devenir homme. L'étudiant doit développer aussi des traits moraux, tels que le courage et un goût pour la violence. En effet, dans une des premières scènes du texte, Gabriel apprend de son précepteur, je cite, « qu'un homme ne doit jamais avoir peur ». Il y a dans l'homme une disposition naturelle à affronter le danger, et c'est ce qui le distingue de la femme. Fin de citation. Gabriel, pourtant, le corrige. « Je crois, insiste-t-il, seulement qu'un homme ne doit jamais laisser voir à son ennemi qu'il a peur. » Bref, Gabriel reconnaît l'imposition des règles que les hommes doivent suivre, mais maintient que ces règles imposées n'ont rien à voir avec la nature masculine. Il note que ce ne sont pas les hommes qui sont naturellement courageux, mais plutôt les enfants. Il se rappelle, je cite, « Quand je n'étais encore qu'un enfant, je m'exposais souvent au danger plus volontiers qu'aujourd'hui, c'est que je n'avais pas conscience du danger. » S'il y a un courage naturel, c'est celui de l'enfant qui ne sait pas mieux. Naturel ou non, le précepteur souligne l'importance du courage quand il prépare Gabriel à apprendre la vérité que son grand-père est venu lui révéler. Gabriel doit donc s'armer d'un courage dit masculin pour supporter la nouvelle qu'il est né biologiquement femme. Gabriel, en fait, se résout à démontrer ce courage. Est-il pour autant devenu homme au moment même où il apprend la vérité sur son sexe biologique? Après avoir appris la vérité, Gabriel va trouver Astolphe, son cousin déshérité. Sitôt dans l'entourage d'Astolphe, Gabriel se trouve dans une bagarre dans un bar pour défendre son cousin. Nous voyons ici la première épreuve dans le monde réel de l'éducation virile de Gabriel. Je cite, « Gabriel est pâle et silencieux, mais il se bat avec sang-froid. » Il semble que Gabriel, ayant appris les valeurs et les compétences viriles du combat, soit devenu un homme. Et pourtant, si Gabriel a appris la violence, une telle virilité ne lui est pas naturelle. Après avoir tué son adversaire, Gabriel, je cite, « très pâle et près de défaillir, admet, j'ai horreur du sang. » Ici, je ne peux pas m'empêcher de faire référence à Aristote et plus tard à l'hypothèse d'Alain Testard concernant le sang et la menstruation. On en a déjà parlé aujourd'hui. Testard prétend que les femmes sont exclues de faire couler le sang dans le combat ou la chasse, par exemple, parce qu'elles saignent elles-mêmes régulièrement. C'est l'homme qui a un rapport actif avec le sang. Il peut le faire couler quand il le veut, s'il le veut, tandis que la femme doit subir passivement les épanchements involontaires. Le héros de sang est techniquement préparé, en ce qui concerne ses compétences, à faire couler le sang. Mais c'est une expérience traumatique que le héros continue à revivre. Je cite, « J'ai détourné les yeux, je n'aurais pas eu le courage de regarder une seconde fois cette bouche sanglante, cette tête fracassée. J'aurais pas cru la mort si horrible. » Et il y a un contre-exemple au désarroi de Gabriel. Tandis que Gabriel est traumatisé par ce combat mortel, Astolphe a l'air non affecté. Regardant son cousin, calmement endormi, Gabriel se demande « Est-ce courage ou est-ce férocité ?» Autrement dit, Astolphe est-il naturellement doué du courage qu'on a enseigné à Gabriel ou est-il plutôt féroce, sauvage, non civilisé? Courage et férocité, on le voit, peuvent se chevaucher et se confondre. L'esprit guerrier est donc un élément constitutif de l'homme et aussi paradoxalement inhumain s'il n'est pas bien géré. Devenir homme est une tâche quasi impossible. Gabriel est féminin dans sa réaction à la violence et au sang, c'est-à-dire pas un homme. Astolphe, par contre, est presque inhumain dans son indifférence, c'est-à-dire pas un homme. Quand Gabriel et Astolphe font connaissance pour la première fois, Gabriel se décrit. C'est citation numéro 4. J'aime mon cheval, le grand air, la musique, la poésie, la solitude, la liberté avant tout. Ce qui est à première vue une introduction banale est en fait un résumé de son éducation virile, physique, intellectuelle et morale. La masculinité et la liberté sont inextricablement liées pour Sand, qui dans son pseudonyme, son écriture, son habit, a recherché la liberté qui n'était pas permise à son sexe. C'est ainsi logique que les leçons qui préparent Gabriel à devenir homme s'intéressent énormément à la liberté. Le précepteur explique au prince, et je cite, « Son âme romanesque, dont je n'ai pas pu façonner absolument à votre guise tous les instincts, se révoltera peut-être au premier choc. Mais l'horreur de l'esclavage, la soif d'indépendance, d'agitation et de gloire triompheront de tous les scrupules. » Le précepteur prédit que Gabriel acceptera de réprimer ses instincts romanesques, voire féminins, pour éviter l'esclavage. Le précepteur lui a inculqué un autre instinct plus puissant, la soif masculine de la liberté. Et le précepteur a raison. En prison, Gabriel contemple son cousin Serin. Je cite, « Il dort comme s'il n'avait jamais connu autre domicile. Il n'éprouve pas, comme moi, une horrible répugnance pour ses murs. » Astolphe est né mâle, mais n'a pas le même goût pour la liberté que ressent Gabriel. Astolphe, qui est viril par anatomie, mais dont la virilité est souvent remise en question, fait office de faire valoir auprès du héros qui est viril par éducation. Gabriel apprend explicitement de son précepteur que les femmes ne sont pas libres. Ça, c'était la deuxième citation. Il doit donc se définir par opposition comme un homme indépendant. On a déjà vu comment le précepteur se vante d'avoir entouré Gabriel d'histoires et d'images de l'asservissement d'un sexe, la liberté et la puissance de l'autre. Gabriel intériorise ses leçons. Juste avant d'apprendre la vérité à propos de son sexe, Gabriel a un rêve prémonitoire. Je cite, « J'étais une jeune fille vêtue d'une longue robe flottante et couronnée de fleurs, l'explique à son précepteur, qui lui répond qu'il devait être un ange. Mais Gabriel insiste, « Non, j'étais une femme et j'avais au cou une lourde chaîne dont le poids m'entraînait vers l'abîme. » Issu de son éducation virile, Gabriel comprend, même au niveau de l'inconscient, que les femmes sont enchaînées. Ce rêve, ou plutôt ce cauchemar, devient réalité pour Gabriel dans le deuxième acte du dialogue. Astolphe demande à son cousin de se déguiser en femme. Astolphe ne sait pas que Gabriel est une femme. De jouer le rôle d'une beauté inconnue pour rendre jaloux les autres. En particulier Faustina, l'amante intermittente d'Astolphe. La comédie que met en scène Astolphe provoque toutes les réactions désirées. Tout le monde joue son rôle. Le héros est, peut-être sans surprise, convaincant comme femme. Faustine est donc jalouse et les rivaux d'Astolphe mordent à l'hameçon et désirent cette femme inconnue. Mais personne ne joue son rôle mieux qu'Astolphe, je cite. « Tu as joué ton rôle comme un comédien de profession », lui remarque un autre. Mais Astolphe vit lui-même sa comédie, comme si elle était réelle. Et il ressent des émotions sincères. La cinquième citation. « Je suis sous l'empire d'une étrange illusion », il réfléchit. « Je me persuade que tu es une femme. Et quoi que je sache le contraire, cette chimère s'est emparée de mon imagination comme ferait la réalité. Plus peut-être, car sous ce costume, j'éprouve pour toi une passion enthousiaste, craintive, jalouse, chaste, comme je n'en éprouverai certainement jamais. » Ici, Astolphe fait écho à sa réaction initiale à Gabriel en travesti. Quelques pages auparavant, quand il voit Gabriel déguisé en femme pour la première fois, il admet, c'est la citation suivante, « Si je t'avais vu ainsi la première fois, je ne me serais jamais douté de ton sexe. Tiens, je serais tombé amoureux à en perdre la tête. » La comédie progresse, et pourtant, et le conditionnel change à l'indicatif. Astolphe n'est plus dans un état spéculatif, je serais tombé amoureux, mais plutôt émotif, j'éprouve une passion. Quand Astaf rentre plus tôt que prévu, il voit son cousin en train de se déshabiller. Et il apprend le secret de Gabriel. Gabriel est sa femme idéale en chair et en os. Les cousins tombent amoureux, et conformément au désir d'Astaf, le héros doit assumer son sexe biologique et devient Gabriel, E-L-L-E. Le héros de Sand doit littéralement devenir femme, devenir une femme du jour au lendemain, à l'âge majeur. Au moment où elle accepte d'être la conjointe d'Astaf, Gabriel doit désapprendre la virilité et apprendre de nouvelles règles du jeu. La famille d'Astaf ne sait rien à propos de cette femme mystérieuse qui est devenue leur belle-fille. Mais ils sont stupéfaits par cette personne qui ne se confesse pas et qui lit toutes sortes de livres. Le jeune Gabriel a appris la philosophie, le grec, le latin. Cette éducation virile ne convient pas aux femmes. Dès que le héros commence à vivre en tant que Gabriel, E-L-L-E, elle doit remplacer la virilité intellectuelle par des compétences plus féminines. Initialement, Astaf défend Gabriel, mais lui aussi devient frustré par la trace tenace de l'éducation virile de son amante. Quand il quitte la famille d'Astaf pour s'installer dans une petite maison de campagne isolée, Astaf a les mêmes plaintes qu'a eues sa famille. Je cite. Tu deviens chaque jour plus philosophe, Gabriel. Tu argumentes du soir au matin comme un académicien de la Crusca. Ne saurais-tu être femme? Astaf réprimande Gabriel de ne pas savoir comment être une femme. Et paradoxalement, c'est le savoir vaste de Gabriel qui en est la cause. Le précepteur de Gabriel prévient Astaf des conséquences néfastes qui résulteront de vouloir enchaîner Gabriel par le mariage. Je cite, « Ainsi, vous voulez être le maître. Je connais Gabriel. On a voulu que j'en fisse un homme et je n'ai que trop bien réussi. Jamais il ne souffrira un maître. » Fin de citation. Que les femmes aient un maître, soit, mais pas Gabriel. Mais Astaf, lui aussi, a appris la virilité, à se démarquer de la femme en la maîtrisant. Et il réfléchit, citation numéro 7. Les pas de la femme sont rapides dans la carrière du vice. Nous autres, nous savons, nous pouvons toujours nous arrêter. Mais elle, rien ne les retient sur cette pente fatale. Et puis il ajoute, une femme peut-elle descendre assez bas pour n'être plus pour nous qu'un objet dont notre vanité fait parade comme d'un meuble ou d'un habit. Autrement dit, les femmes doivent, l'un, être sous la surveillance comme si elles étaient des enfants, ou bien deux, mises en service comme si elles étaient des objets. Bon, Astaf schématise ici les principes du code Napoléon. Sous le code civil, le statut de la femme mariée était au mieux celui d'un enfant qui échange l'obéissance pour la protection et au pire, celui d'un bien sans aucun droit personnel. Gabriel Astaf ne se marie pas. Et pourtant, le héros n'arrive pas à vivre libre. Le texte de Sand flirte avec de nouvelles possibilités pour les femmes et pour les hommes. Et pourtant, le roman ne nie pas les conditions matérielles qui mettent les femmes à la merci des hommes, qui sont eux-mêmes dominés par ce rôle dominant qu'ils doivent jouer. Je cite Astaf ici. « En te ramenant ici chaque année, Gabriel, le tyran se condamne à plus de maux que sa victime. » Mais il ne peut pas échapper à ce rôle de tyran. Ayant peur que Gabriel le quitte, Astaf la suit et l'enferme dans sa chambre, dont il met la clé dans sa poche. Dans la préface de Gabriel, Sand insiste que son dialogue est la fantaisie pure. L'action se déroule ailleurs, en Italie au XVIIe siècle. Et pourtant, cette fantaisie n'est qu'un commentaire légèrement voilé sur les conditions du monde réel que connaît bien Sand, en France au XIXe siècle, où les hommes doivent constamment affirmer leur virilité. D'un côté, Gabriel souligne l'artifice des rôles sexuels. En dépit d'être né femelle, le héros de Sand peut apprendre à être un homme et ne peut pas vivre comme une femme. Ceci dit, artifice ou non, ces dictats sont violemment imposés. Fantaisie pure ou non, dans Gabriel, on voit la réalité de la masculinité post-révolutionnaire, qui doit se réinventer et qui ne doit rien considérer comme allant de soi. La Révolution française a inauguré une instabilité en France, où tous les rôles fixes de l'ancien régime étaient mis en question. L'identité de classe, bien sûr, telle qu'elle était connue avant la Révolution, se défaisait. Et de même, l'identité sexuelle, voire la virilité, était en crise de redéfinition. Au 19e siècle, explique Alain Corbin, je cite, « masculinité et virilité doivent se faire ostensibles autant qu'il est possible. D'où l'importance de la moustache ou la barbe, de la défense de l'honneur et donc de la pratique du duel. » Après la Révolution, fin de citation. Après la Révolution, la virilité va moins que jamais de soi et doit constamment s'affirmer et s'afficher. Ainsi, les hommes post-révolutionnaires ont façonné leur corps et leur nature sexuelle, tout comme Gabriel, mais d'une manière perverse, dans la mesure où ils ont imposé les idéaux presque impossibles à atteindre. Robert Nye, qui écrit sur les duels et l'honneur, soutient qu'ironiquement, dans une société telle que l'époque post-révolutionnaire, la virilité est toujours en train de se construire, mais elle est aussi toujours fixe, comme un telos, un but nécessaire mais définitivement inaccessible. Autrement dit, Gabriel est à la fois fantaisie pure, comme le prétend Sand, et le héros est un modèle de la quête impossible à devenir homme qui définit l'époque de George Sand. Dans Gabriel, la virilité est apprise, précaire et doit être constamment prouvée. Une manière typique de prouver la virilité, surtout en France à l'époque, est le duel. Dans Gabriel, on voit le duel pour la première fois contre Astolphe, dont la virilité vient d'être mise en question par Faustina et menacée par Antonio, veut mettre à défi son rival au duel et ainsi affirmer sa virilité précaire. Plus tard, dans le dernier acte du dialogue, c'est le héros qui affronte Antonio dans un duel. Antonio, ayant deviné le secret du héros, trouve Gabriel à Rome et l'accuse d'être une femme. Antonio lui propose le choix, de soit admettre sa féminité, soit prouver sa virilité par le duel. Antonio est sûr que, je cite, « si c'est une femme, elle va prendre la fuite ». Mais quand le combat s'engage, Antonio doit admettre. C'est là le jeu d'un homme. C'est pourtant bien là la main d'une femme. Les indices dévoilant le sexe de Gabriel se contredisent. Son comportement et ses talents ne correspondent pas à son corps. Mais en fin de compte, Antonio concède. Femme ou diable, il m'a fort arrangé. Antonio exprime ses doutes, mais Gabriel reste un il. Être homme ici dépend plus des valeurs acquises qu'à traits physiques. Le duel est une preuve de la virilité. D'abord parce que pour y réussir, il faut les compétences qui ne sont maîtrisées que par une certaine classe d'hommes. Mais surtout pour des raisons symboliques. Parce que le duel exemplifie un code moral du courage et de l'honneur. Ainsi, on ne doit pas s'étonner que le duel apparaît à plusieurs reprises dans Gabriel. Au 19e siècle, tandis que la pratique du duel est en déclin ailleurs, en France, elle acquiert une nouvelle valeur symbolique après la Révolution. À la différence des autres pays occidentaux, la France n'a jamais réussi à adopter de lois spécifiques au duel. L'absence de législation officielle concernant le duel peut s'attribuer en grande partie à la publication d'un nouveau code du duel en 1836, la première publication depuis le 17e siècle. L'auteur du code a fait valoir qu'en l'absence de directive légale claire, il fallait un code de duel qui puisse atteindre la force de la loi, parce que l'honneur, il a insisté, n'est pas moins sacré que les lois gouvernementales. Ce qui nous mène à la conclusion. George Sand écrit Gabriel en 1839, donc 3 ans après, un moment charnière dans l'histoire de la virilité, ou bien dans l'histoire de comment la virilité est légiférée. Elle écrit à la suite du code Napoléon qui renforce l'autorité masculine et au même moment où on essaie de formaliser le code d'honneur du duel pour la première fois depuis 200 ans. Gabriel voit le jour à une époque où la France réinvente et réifie les normes de la virilité. Les héros de Sand, tout comme ses compatriotes, sont confrontés à un dilemme quant à la manière de devenir un homme. Face à une virilité si fragile, ils doivent imposer et renforcer de nouveaux codes rigides. Bien que Gabriel ne meure pas dans un duel avec Antonio, c'est le dernier qui frappait, peu après, Gabriel est poignardé aux mains de Giglio, un assassin engagé par le prince. Le héros, ayant appris la virilité, fait preuve du courage dans la mort et embrasse la liberté que la mort apportera. En tombant, il reconnaît, je cite, « C'est bien frappé, je demandais la liberté et tu me l'as donnée. » Quand Giglio appelle Gabriel, un homme qui me ressemble, l'assassin reconnaît non seulement l'humanité de Gabriel, mais aussi la virilité du héros dans ce dernier moment de sa vie. Gabriel a une demande pour son semblable, une dernière demande. Alors, citation numéro 8. Je ne veux pas que mon corps soit insulté par les passants. Attache-moi à une pierre et jette-moi dans l'eau. Je souffre. Arrache-moi ce fer de la poitrine. Ah, merci, je me sens mieux. Je me sens libre. Mon rêve me revient. Il me semble que je m'envole là-haut, tout en haut. Alors que Gabriel, qui porte le nom d'un ange, plonge dans le Tibre depuis le pont Saint-Ange, qui porte aussi bien son nom, il a un contre-mouvement vers le ciel. Le héros réalise paradoxalement son rêve de devenir ange, de s'échapper à la fois des dictats de la virilité et de l'assujettissement dont souffrent les femmes. Le texte Sand est une tragédie. Le héros doit mourir pour trouver la paix, dont la vie ne peut ni supporter la condition de femme, ni arriver à remplir la tâche quasi impossible de devenir homme. Mais Sand fait quelque chose dans Gabriel qui est loin d'être tragique. Elle commence à dévoiler le mythe de la virilité, à montrer comment la virilité est fragile et construite, comment elle n'est pas une donnée biologique. Après tout, Gabriel est souvent plus viril que l'état Stolf. En outre, Sand commence à dévoiler comment cette arme de la virilité pour laquelle les hommes font tout leur possible n'en est pas une. Elle est plutôt un frein social qui sert à opprimer non seulement les femmes esclaves, mais aussi les hommes qui doivent vivre sous l'empire du mythe. Sand ne nie pas la puissance du mythe, qui, en fin de compte, est responsable pour la fin tragique de son texte. Mais en écrivant cette âme comme fantaisie pure, elle commence à révéler l'imposture de la virilité, à déstabiliser ce mythe fondateur de son époque et de la nôtre.